Alors, je vais vous parler de guitare par rapport à des concerts. Parce que je vais en concert de. Je vais en concert, donc je fais des photos. Et en fait, à force de faire des photos de concert, j'ai remarqué au bout d'un moment que les gens utilisaient en punk, en tout cas, parce qu'après, il ne faut pas faire de généralité non plus, mais je vais quand même en faire en partie. Donc les musiciens utilisent à peu près toujours les mêmes instruments. Donc là, par exemple, ça c'est une photo de Zeke en 98-19, et il arbore fièrement ce qu'on appelle une Les Paul Gibson. Entre 98 et 2018, sur les 93 groupes de punk et affiliés, donc punk hardcore, punk rock, garage punk, hardcore, oi, punkabilly, originaires de France, Europe, USA et autres qui ont joué à Paris, en tout cas que j'ai vu, il y a eu 110 guitares utilisées en concert, et les chiffres sont éloquents sur la quasi-uniformité des modèles utilisés. Donc le règne des Gibson est sans égal, il y a eu 55 Les Paul, cette guitare, 22 SG, autre nom, c'est la solide guitare, c'est la petite sœur de la Les Paul, celle-ci. Il y a eu 10 Fender Telecaster, celle-ci. 18 modèles divers de chez Gibson, donc il y a la Melody Maker, voilà, celle-là. Flying V, ah merde. Flying V, pardon, là, ça c'est la Flying V.
Quelle horreur.
La Firebird, la 335S et la ES175. Et il y a eu seulement 2 Fender Stratocaster, qui sont donc la petite sœur de la Telecaster. Voilà, ça c'est la Stratocaster. Voilà, et donc alors j'ai considéré les Les Paul et SG de la marque Gibson et Epiphone dans le même comptage parce que Epiphone est une sous-marque de Gibson depuis 57. Donc en tout, ça fait 4. Il y a eu 110 guitares, et sur les 110 guitares, il y a 95 Gibson qui sont utilisées. Donc voilà, ça c'était pour mon introduction, pour vous dire pourquoi j'en suis arrivé à cette conclusion que la marque Gibson et donc le Les Paul est principalement arrivé dans le punk. Et maintenant, je vais me permettre d'essayer d'expliquer pourquoi. Donc il est incroyable que les formes caractéristiques de ces guitares, donc Les Paul, SG, Telecaster, Stratocaster, et bien entendu les autres modèles cités au-dessus, ont toutes été créées à l'orée des années 50 et 60 et existent toujours, et en plus c'est indémodable et ça fait quand même 70 ans que c'est utilisé. Alors ça sert dans les différents styles de musique électrique, donc le blues, le funk, le rock, le pop, le reggae, etc. et le punk. Et donc force est de constater, si vous aimez les belles choses, que ces guitares sont des merveilles de design qui allient élégance et esthétique. Et en même temps, personne ne joue avec une guitare moche, en tout cas suivant ses propres critères. En même temps, voilà, c'est pas que le look qui fait que ces guitares sont utilisées. Alors pour commencer, je vais simplement dire les autres trucs qui sont un petit peu à part. Donc Johnny Ramone utilise une Mosrine, cette guitare-là. Steve Jones des Sex Pistols et Mike Jones des Clash jouent sur Les Paul, la guitare qu'on a vue au début. Et Joe Strummer, par contre, il joue sur une Telecaster. Le truc qui est à noter, c'est que la Telecaster est pratiquement toujours employée par les groupes qui ont deux guitares, en complément d'une Gibson, comme les Clash. Donc les Hives dans la Boule Noire en 2000, Puffball, groupe suédois Glazard 2003, qui quitte la Miroiterie en 2014, The Panty Party au Bar Holly Holster en 2018, Tue la Mort à la Comédia en 2018, et les Marteaux Piquettes, voilà, c'est elle, à Belleville en 2018. A noter que cette dame joue qu'avec une seule corde. Je sais pas si on voit bien, mais elle joue avec une seule corde. Donc c'est assez excellent. Seuls 4 groupes sur les 93 qui utilisent la Telecaster l'utilisent comme une unique guitare. Donc il y a Shock Option, que j'ai vu à la Miroiterie en 2012, Macadam à la Comédia en 2016, Peter Bentham et les Dinner Ladies à la Comédia en 2017, et Buds à Rouen en 2018. C'est pareil pour la Stratocaster, seuls 2 groupes de punk et affiliés, vu toujours dans les concerts que j'ai vus, hein, sur les 93, l'utilisent. Donc t'as Helicopters, ça c'est la photo de Helicopters J-Bus en 99, et Unlogistic au Cirque Électrique en 2014. Et c'est toujours utilisé en complément d'une Gibson. Donc ce monsieur-là, Robert Dalvis, qui est le guitariste solo du groupe, donc Helicopters, qui est un groupe suédois, c'est un mélange de hardcore, garage et de punk. Et il joue principalement sur Gibson Epiphone, mais il joue aussi sur une Stratocaster de 76, qui est donc celle-ci. Alors, dans l'imaginaire collectif, désigne l'ensemble des éléments qui s'organisent pour un groupe donné, mais à son insu, en unité significative. Ce modèle, donc la Stratocaster de 54, est présenté comme une version améliorée de la Telecaster qui date, elle, de 1950 et qui est surtout associée au blues, au rock et au hard rock, mais pas au punk. La Stratocaster, c'est Buddy Holly qui est le premier Strat Hero, Jim Hendrix, David Gilmour de Pink Floyd, Stevie Ray Vaughan, Wayne Kramer de MC5 et Yngwie Malmsteen, donc le guitar hero suédois qui joue beaucoup de Mutt. Leur côté, ZX, donc c'est un groupe qui joue aussi avec deux guitares, avec une Gibson et une Fender. Donc ça c'est un concert de 2008 à Instant Chaviré. Et chose plus rare dans le punk, il joue avec, j'ai plus le nom de monsieur, je crois que c'est Andy Moore, mais je suis pas sûr. Il joue avec une Fender Jaguar, qui est donc une guitare de 62, qui est la petite sœur cadette de la Jazzmaster, qui elle est née en 59 et qui est une guitare, qui est une version haut de gamme de la Stratocaster, et c'est une guitare qui est beaucoup utilisée dans le surf. Donc la Jaguar, celle-ci, et la Jazzmaster, qui est celle-ci, sont deux échecs commerciaux. Donc la Jaguar, sa production s'est arrêtée en 75, la Jazzmaster en 77, et comme ça coûtait plus rien dans les années 80, il y a des musiciens comme Tom Verlaine de Television qui l'adoptèrent et qui ont aimé aussi leur look un petit peu original par rapport aux autres guitares. Et ces guitares sont redevenues populaires dans les années 90 avec le grunge, le rock indé et la noise, comme Thurston Moore, là c'est en 2000 je crois, qui joue avec ces deux modèles là, donc Jazzmaster et Jaguar. Et ces guitares aussi ont un atout particulier qui permet de faire de la musique bruitiste. Donc le chevalet, donc c'est la pièce que vous voyez juste là. Le chevalet, en fait, comme il y a une grosse longueur entre la corde qui est bloquée ici et le fait que la corde soit tendue ici sur ce bord du strip dont j'ai plus le nom, fait qu'en fait ça crée un phénomène acoustique qui s'appelle la résonance sympathique. Et c'est parce que ça fait comme sur un violon en fait. Et donc cette distance qui est assez importante dans l'absolu, ça fait quoi, 5 à 10 cm maxi, fait que en fait cette portion de corde libre, donc c'est vrai que ça s'appelle ou sympathique, fait qu'en fait avec le fait de jouer les cordes de la guitare, ça crée des vibrations et ça rentre en résonance avec les notes jouées sur la même fréquence, donc ça crée des harmoniques. Et en plus, comme les micros de guitare sont amplifiés électriquement, ce phénomène de résonance est amplifié et donc ça fait un son unique pour faire du bruit et donc de la noise. A contrario, la majorité des groupes à une guitare utilise soit la Les Paul, soit la SG. Et la configuration la plus courante pour un groupe de punk à deux guitares, c'est Les Paul et SG devant la configuration de Les Paul ou de SG. Mais en général, il n'y a jamais deux SG. Alors le fait de ne pas prendre aussi deux mêmes guitares pour jouer ensemble, c'est fait que si les gens vont jouer sur les mêmes amplis, les deux guitares vont se brouiller en fait au niveau des sons, parce que même s'ils changent un peu les micros, les sons sont tellement proches qu'en fait ça va faire un son hyper bruyant, on va pas entendre les deux guitares, donc il faut vraiment deux sons distincts entre les deux guitares quoi. Voilà, donc sinon, alors bah le punk c'est quand même du rock'n'roll avant tout, donc Sylvie Schust il a refait une reprise de Come on Everybody d'Eddie Cochrane, Joey Ramone cite Jimmy Page de Led Zeppelin comme inspiration pour son jeu, dans un bouquin qui s'appelle I Slept with Joey Ramone, Family Memoir de Michael S. Et en fait, dans ce bouquin, Johnny Ramone, il dit qu'en fait, il s'est inspiré spécialement de Communication Breakdown de Led Zeppelin, donc 60-69, pour son jeu, parce qu'en fait, il joue sur cette chanson, il joue en ce qu'on appelle en downpicking, ça veut dire qu'il gratte les cordes que de haut en bas, et pas en aller-retour. Donc comme il gratte que de haut en bas, ça fait que le son est plus lourd, puisque c'est toujours les graves qui sont joués en premier. Et en plus, au niveau du look, il a la gratte super basse. Donc, comment ne pas penser à Jimmy Page, qui joue la gratte aussi hyper basse quelques années auparavant, quoi. Par rapport aux influences du rock'n'roll au niveau de la musique, on peut citer aussi les Cramps, qui ont repris les Surfing Birds des Trashmen, sur le premier 45 tours, en face B, en 78. Ou bien les Guitar Wolf, qui ont repris Satisfaction des Rolling Stones en 94. Alors je fais ce petit aparté rock'n'roll parce que en fait les musiciens punk sont quand même avant tout des fans. Et donc l'utilisation de la Stratocaster en punk est nulle, mais c'est sûrement lié, enfin en tout cas c'est un point de vue, hein, elle dit que c'est quand même une guitare de hippie. Donc là vous voyez David Gilmour sur Live at Pompeii. Et en fait comme les années 70 c'est le règne incontesté de Pink Floyd, et par exemple pour citer Dark Side of the Moon par exemple 73, c'est resté 741 semaines dans le Billboard 200 aux États-Unis. Entre 73 et 88, l'album était vendu entre 45 et 50 millions d'exemplaires et il est resté dans les charts pendant 914 semaines, soit presque 18 ans. C'est le troisième album le plus vendu de tous les temps. Et donc, vu que Steve Jones des Sex Pistols avait un t-shirt sur lequel il disait qu'il aimait pas Pink Floyd, il pouvait évidemment pas jouer que la même guitare que David Gilmour qu'on a vu juste avant. Sinon, alors donc par rapport à ça, je fais quelques interviews justement avec quelques personnes. Ça c'est Jeannot qui joue dans Lee Holster, King Phantom et Panty Party, et je lui demandais pourquoi il jouait sur Gibson. Bon là c'est pas une Gibson mais je vous expliquerai juste après. Et il me dit en gros pour rigoler que c'est pas un hippie quoi. Donc je me demande si c'est un peu mimétisme par rapport au groupe de punk qu'il écoute. Il me dit en rigolant évidemment sûrement. Et c'est pareil pour Jex Spector, guitariste et chanteur de Spermicide. Et lui aussi il est pas dupe, c'est aussi la gueule de la gratte qui joue par rapport à ses influences qui sont pour lui Steve Jones Sex Pistols, Johnny Thunder des New York Dolls, Mike Jones des Clash, Euroboys de Turbo Negro. Qui est là, c'est lui. Et pour Jack Spector aussi, Wayne Kramer du MC5, lui qui joue sur Stratocaster, c'est sur Stratocaster qui joue, mais pas sur LP, mais pour lui, ce monsieur, il aime pas la Strat, il aime bien le son, mais pas la gueule de la guitare. Et puis lui, il joue donc sur une Les Paul Junior, parce que c'est la gratte qui correspond à ce qu'il veut faire et c'est laquelle il est la plus à l'aise. Donc là, il a une Les Paul Junior blanche, il a une custom aussi 67 jaune. Et pareil, j'ai interviewé aussi David Nussing du groupe Oi Outro, qui est là. Et lui, c'est pareil, c'est ses goûts musicaux qui l'ont influencé pour jouer sur une Les Paul. Et lui, spécifiquement, c'est par rapport à John Purcell, qui est le guitariste de Youth of Today, qui est un groupe de punk hardcore américain de la deuxième moitié des années 80. Et puis très jeune, pour lui, c'était une référence, et surtout sur leur premier EP, Can't Close My Eyes. Et puis, il adore le son, il adore le jeu du mec, la guitare, et voilà, il est fan. Et en plus, il y a pas mal de groupes hardcore, c'est toujours lui que je cite, hein, et il y a pas mal de groupes de hardcore américains qui jouent avec Gibson, et puis même, comme il aime bien les Who, le blues, Wes Montgomery, pour lui, c'était évident qu'il joue avec ça, quoi. Et pareil, donc je vais me permettre de dire que là, c'est ce que j'ai écrit, hein, pardon. Donc là, Les Paul, c'est aussi une longue tradition de guitare de rock rebelle, me permettrais-je d'écrire, hein, donc pardon. Et ce, depuis les années 60, de la période pré- ou proto-punk. Et c'est un peu ce que me rappelle aussi Alan, voilà, qui est à droite, le guitariste de Bombix Mori, qui me dit que la Les Paul, ça vient principalement des Stooges et des Who. Et pour lui, ouais, il est clair que Roch Aston des Stooges ou Peter Townsend des Who ont influencé des générations entières de guitaristes, et évidemment, c'est pas les seuls, mais voilà, il y a beaucoup d'eux, quoi. Mais la guitare, c'est aussi une histoire d'affect. C'est ce que me disait aussi David Doutreau. Donc c'est la guitare qu'il rêvait quand il était gamin. Et puis c'est pareil pour Toto Raymond. Donc là c'est Toto Raymond, c'est le gratteux de Bafoutorgnol. Et lui il joue avec une SG parce qu'il était fan d'ACDC quand il était gamin. Et puis c'est la guitare de Angus Young et Jimi Hendrix. Alors quand je lui parle de Jimi Hendrix avec la SG, je lui fais remarquer que c'était plutôt une Strat qui jouait. Et il me disait que en fait Hendrix il avait une SG à 3 micros et que celle-là il l'a pas brûlé. Et puis lui pour Toto, sa première belle guitare, voilà, il avait acheté une Strat comme tout le monde. Et puis voilà, comme il aime bien ACDC, Black Sabbath, Frank Zappa, c'est des guitares, c'est une guitare qui est utilisée par ces gens-là. Et puis c'est aussi, pour d'autres gens, c'est aussi une rencontre. Donc la guitare, c'est une histoire de rencontre, puisqu'elle peut être musicale ou humaine, et c'est un peu ce que me dit aussi lui. C'est Josh de Lulling and the Bomb, c'est comme il dit. Et il disait que dans les années 90, alors lui, c'est un gallois, et il disait que dans les années 90, le meilleur moyen d'acheter une guitare, c'était d'occasion, et il a acheté sa première guitare à un ancien rocker de Liverpool qui vendait une Telecaster. Il était très content et il a commencé à jouer avec son groupe, mais après il s'est rendu compte que les autres groupes jouaient avec des guitares genre SG ou Les Paul. Et à l'époque tout le monde achetait des Epiphone parce que personne n'avait les moyens de s'acheter une Gibson. Et en fait quand il y a le guitariste d'un groupe qu'il aimait bien qui s'appelle Bass Time Inga, que j'ai jamais rien trouvé sur internet sur eux, mais ça va être un petit groupe local, quand le gratteux de ce groupe a vendu sa Les Paul, et il lui a acheté. Et comme c'était en plus la guitare de l'ancien guitariste de Dropout, un autre groupe qu'il écoutait, il était super content d'avoir la guitare de mec qu'il aimait bien. Et c'est pareil pour Alan, en fait. Pour Alan, c'est plutôt le style de l'AEG en fait, qui lui a plu, en fait. Et donc il m'explique qu'il a commencé à jouer sur EG parce qu'il aimait bien la gueule de la guitare avec ses deux cornes, avec la couleur rouge, ça devient un truc vraiment diabolique. Et puis après, au bout d'un mois, il s'est rendu compte en fait que pour jouer du rock un peu heavy, comme il dit, ou vénère, ça marchait super bien. Et puis en écoutant des groupes qu'il utilisait, genre ACDC, les Who, les Cream, il a pas hésité une seule seconde pour garder cette guitare. Alors maintenant, on va parler du son. Et donc le son de guitare, c'est la résultante d'une combinaison de deux facteurs, le micro et les micros et les bois utilisés. Et le son d'un guitariste dépend donc de sa guitare, de son ampli et éventuellement des pédales qu'il utilise. Et le punk, en tant que musique, il veut du gros son. Donc je vais pas m'étendre de trop sur la composition de ce que c'est un micro, mais en deux minutes, un micro c'est un aimant avec une bobine de cuivre autour et ça crée un champ magnétique. Et quand la corde vibre, ça fait varier le champ magnétique et donc ça fait varier donc la tension et donc faire attention, donc ça fait un son. Donc je fais très simple. Donc par rapport au micro, il y a deux types de micros. Il y a les double bobinage comme celui-ci, ça c'est les trucs double bobinage, et il y a simple bobinage comme ceci. Il y a juste donc il y a six vis là, c'est six aimants au milieu là, donc qui sont une pour chaque corde, mais là il y en a deux. Et vous avez compris. Et Jeannot, le mec de Holly Holster et de King Phantom, donc il m'explique que Fender c'est les micros simple bobinage. Voilà, c'est simple bobinage, et Gibson c'est du double bobinage. Et le double bobinage de ces Gibson, ça s'appelle un humbucker, donc en anglais ça veut dire nettoyeur, enfin en français plutôt ça veut dire nettoyeur de bourdon. C'est les micros qu'on trouve de base sur Les Paul et SG principalement. Et en fait, ce double bobinage, ça fait qu'annihile en fait le bourdonnement dû au parasitage produit par les champs magnétiques, qui résulte parfois des transformateurs, des néons, des lampes et choses comme ça. Et en fait, ça encombre, et c'est un parasitage qui encombre les micros simple bobinage de chez Fender. Et après, en fait, il y a deux écoles pour les guitaristes. Il y a les simples bobinages et les doubles bobinages. Et de ce que j'ai pu entrevoir en parlant avec des gens de différentes générations, on va dire entre 30 et 50, plus les gens vieillissent, ou plus ils deviennent matures, plus ils sont en simple bobinage, en fait. Pour les vieux. Et donc, par exemple, JC de Buds, là, qui joue, qui a peut-être 45-50, lui, il a troqué sa Les Paul et le punk pour une Telecaster et une Telecaster et pour le garage. Et pareil pour Jex, en fait, de Spermicide, lui, il a une Epiphone munie de humbucker, mais sa préférence, ça va à ses deux guitares junior, donc la Junior Gibson et la Custom 77, parce qu'il a des micros P90. Et donc le P90, c'est le micro, c'est le Graal pour plein de gens, dont Josh aussi, le guitariste qu'on a vu tout à l'heure, là, de Wheeling, qui me dit que ce micro qui a été inventé dans les années 50, il est parfait pour le rock'n'roll, alors que pour quelqu'un comme Toto, qui a bientôt la trentaine, pour lui, le P90, ça buzz. Et alors que Jano m'explique que le micro produit un son plus puissant, mais plus gras, le double bobinage, mais il est moins précis, à cause des doubles bobines. C'est ce que Toto me dit aussi, en fait. Et il me dit, tu joues du punk, donc il te faut un gros son. Le punk, c'est généralement une guitare, un câble, un ampli, et c'est tout. Tu n'utilises pas de pédale, donc ils veulent du gros son rapidement. Donc c'est bulldozer, quoi. Alors pareil, David Doutreau me dit un petit peu la même chose. Il me dit que le humbucker, ça rajoute encore en amplitude et en puissance. Et d'ailleurs, lui, qui fait de la œil, il joue pratiquement tout le temps sur le micro-manche, là où les cordes vibrent le plus. Et concernant la œil, il m'explique en fait que... Je trouve que les Fender passent très bien. Ça rajoute du son crin-crin, qui est pour moi un des sons que j'aime dans la œil, bien à l'anglaise, à t'agacer les oreilles. Un pur groupe de œil, pour moi, ne doit pas avoir un son lourd, trop à l'américaine, contrairement au hardcore. Je n'aime pas trop les groupes hardcore anglais des années 80, notamment pour ce son dégueu et crin-crin, comme Electro Hippies, Ripcord, etc., etc. Et pour Toto, pareil, parlant de la SG, c'est Toto là, c'est lui. Et donc lui, il me dit que la SG, c'est une guitare polyvalente, qu'elle a un panel de sons beaucoup plus large que la Les Paul. Il dit, c'est simple, Frank Zappa, c'est quand même l'opposé d'Angus Young, donc d'ACDC. Et si les deux utilisent la même guitare, c'est que tu peux vraiment faire assez différent avec ça. Et en plus, il rajoute que par rapport au Fender, la grosse différence, hormis les micros, c'est les bois. Donc maintenant, on va parler un petit peu de bois. Voilà. Non, c'est un arbre. Alors, je sais plus ce que c'est, je crois que c'est un acajou, mais on va y venir. Donc, le son d'une guitare, ça va dépendre du bois. Et là, c'est David Doutreau qui me dit que pour la Les Paul, le type de bois, là c'est de l'acajou, donc ça je crois que c'est un acajou si je dis pas trop de bêtises. Et qu'en fait, l'acajou, ça donne un son velouté. Et quand il joue, lui, sur une Fender, et ben, il a l'impression d'avoir un bout de cachette dans les mains. Et en plus, comme les Gibson sont toutes faites aux États-Unis, donc il a toujours, il a toujours le même son, alors que quand t'as une Fender, tu peux avoir une guitare qui peut être faite en Corée ou au Mexique avec une qualité de bois aléatoire. Et donc, en plus, au niveau du son, pour lui, Fender, c'est tout ce qu'il aime pas. C'est un bois de cagette, c'est un petit sustain. Donc, le sustain, pour ceux qui connaissent pas, c'est la capacité d'un instrument à maintenir un son dans le temps. Exemple principal, vous écoutez, comment il s'appelle ? Santana sur je sais plus quel morceau super connu qui fait 3 heures de comme ça. Ça c'est le sustain. Donc le bois. Donc ça c'est un acajou. Donc Gibson utilise de l'acajou. Donc c'est un bois utilisé pour le corps et pour le manche, qui a un bois plutôt dense. Alors je vous donnais des chiffres, mais j'ai pas vraiment compris à quoi ça correspondait, mais en tout cas c'est la densité, parce que là c'est un bois qui est entre 0,55 et 0,80. Et ça fait que... Non, c'est important, parce qu'après, c'est des valeurs différentes, donc je les donne juste par type de manière informative. Et donc, ça donne des sonorités rondes, profondes, chaudes, avec un fort sustain. Mais l'intonation est largement moins nette que la plupart des autres bois, et le son est peu bruyant. La différence notable entre la Les Paul et la SG, c'est que la Les Paul possède une table, donc c'est ce qui recouvre le corps de la guitare, qui est en érable, et c'est un bois assez rigide, un bois rigide et assez dense, qui fait entre 0,55 et 0,84, et qui conduit très bien les vibrations et donne une intonation plus claire et plus précise. Alors que Fender, ils ont d'autres bois, vous allez voir un autre arbre, ça c'est un frêne, et en fait, donc Fender utilise et du frêne et du aulne, enfin je crois que ça se dit aulne, mais ça, je sais pas comment ça se dit, alors ça c'est un aulne, et ça c'est un frêne. Donc on va commencer par le frêne c'est un bois qui procure une attaque très franche, avec un son clair et claquant, avec une densité un peu moindre de 0,65-0,75, et avec un sustain limité. Et c'est lui qui donne le son sec et reconnaissable des Telecaster des années 50, guitare utilisée par Keith Richards ou Bruce Springsteen. Mais depuis lors, en fait, les Telecaster sont faits avec des corps en aulne, qui escamote en partie, donc là c'est un aulne, qui escamote en partie ce son si reconnaissable. Alors l'aulne, c'est un bois qui est moins dense, 0,5 à 0,55, et c'est le plus fréquent sur les Stratocaster aussi. Alors c'est un bois plutôt neutre qui n'influence pas vraiment la personnalité de la guitare, et c'est un compromis plutôt correct entre sustain, brillance et précision du son. Et le son sec des Telecaster et le son clair et cristallin des Stratocaster se trouvent renforcés par le manche et la touche, ce qui recouvre le manche, qui est en érable. L'érable, c'est un bois qui est densité comparable à l'acajou et qui conduit bien les vibrations. Et parfois, chez Fender, ils utilisent une touche de palissandre, qui est un bois très dense qui fait 0,95 à 1,25. Où est-ce qu'est le palissandre ? Voilà. Ça, c'est une touche de palissandre sur une Fender copie, enfin réédition 62. Donc c'est un bois qui est tellement dense, en fait, qui fait que la sueur ne peut pas s'imprégner dans le bois. Donc c'est pour vous dire, donc ça fait que ça, les vibrations de la guitare, des cordes, vont dans tout le manche, dans toute la guitare, donc ça fait un super son, quoi. Donc sinon, il y a un truc qui est important, c'est le poids de la guitare, parce qu'en fait, suivant les poids qu'on va utiliser, ça va faire qu'il y aura des poids différents, et donc ça va influencer sur la performance scénique qui est un concert. Donc pour les guitares Telecaster, Stratocaster, Les Paul et SG, le poids c'est en général entre 3 et 5, avec des variations selon les années. Telecaster, Stratocaster, c'est en moyenne 3,6 kg. Une Les Paul, c'est 4 à 4,5 kg. Et par contre, ça a pu monter en Les Paul jusqu'à 6,5 kg, voire 7 kg dans les années 70. Et en fait, le poids après, il va dépendre de l'architecture du corps, spécialement pour les Stratocaster, les Gibson. Donc il y a eu trois architectures de corps qui ont été faites. Il y a le corps plein, donc c'est-à-dire que la guitare, elle est massive, c'est un bloc de bois en entier. Il y a le white relief, donc ils ont fait 9 trous dans le corps pour l'alléger. Et il y a le chambered, sans l'accent, désolé, comme la Les Paul standard de 2008, où le corps est entièrement vidé, mais ça fait un son tout pourri, quoi. Donc après, ils ont fait un autre truc qui s'appelle le modern white relief, qui est comme sur la Les Paul standard de 2012, qui est un compromis entre le fait d'avoir 9 trous et d'avoir un truc complètement vide. J'ai oublié d'amener des photos de ça. Et parce que le poil d'Les Paul, ça a toujours été son point faible, parce que quand vous avez une guitare de 4 à 6 kg sur le dos pendant une heure de concert, ça peut être compliqué. Alors David de Outreau aime bien l'humour, et donc il me dit par rapport à ça que la Les Paul, c'est comme les Harley, c'est une guitare d'homme. Désolé pour les filles. Et c'est souvent le problème de poids qui fait que la Les Paul est des fois délaissée pour la SG qui pèse elle 3 kg, un peu plus de 3 kg. Quoi. Et c'est pour ça que Toto, par exemple, qui était avant, que Toto de machin là, Futurneul, lui prend une SG parce que la LP ça lui casse, enfin la Les Paul ça lui casse le dos. Et pour Alan de Bombix Maurice, c'est la même chose, c'est plus léger. Et faut pas oublier que la scène est une performance artistique et physique, et être debout et bouger, voire beaucoup pendant 30 à 60 minutes avec 3-5 kg sur le dos, ça peut être un effort assez conséquent. Sachant que en plus, en général dans le rock'n'roll, on utilise la guitare souvent très très bas, et qu'en fait plus la guitare est basse, plus la sangle va être évidemment longue, mais ça fait qu'en fait le poids de la guitare va être une sensation de plus lourd. C'est ce qu'on appelle en physique un travail. Parce que le travail de la force, c'est la force fois la distance. Donc en fait, plus vous avez la guitare basse, plus elle va vous avoir la sensation d'être lourde en fait. Donc c'est pour ça que quand vous utilisez la guitare très basse, avoir une Les Paul, ça peut être plus difficile à porter qu'une AG. Mais il y a des gens comme Jex, par exemple, de Spermicide, qui n'est pas convaincu par la SG parce que lui trouve que la guitare est trop légère et qu'elle manque d'équilibre. Parce que, en fait, comme elle est vachement plus légère, et qu'avec le poids en fait, de la tête du manche, fait qu'elle tombe vachement en avant. Quoi. Et pour lui, Alan, lui, s'en fout du poids parce qu'il bouge tout le temps. Et puis pour Toto comme pour Jeannot, en fait, c'est pas vraiment le poids qui compte, c'est surtout l'ergonomie en fait. Parce que Jeannot, lui, il fait beaucoup de solos. Hein. Et les deux me disaient en gros que quand tu montes dans les aigus, donc ça veut dire en bas du manche, et ben tu sur la Les Paul, tu arrives vite sur le corps, et en fait tu peux plus jouer. Alors que sur la EG, comme le corps est plus court et plus fin, ben la 22e case, parce qu'en général les guitares ont 22 cases, tu peux vraiment l'atteindre facilement. Et que même, je sais plus qui c'est des deux qui avait essayé la EG spécial signature Angus Young avec 24 cases, et ben la 24e case, tu peux l'avoir sans problème. Et pour Jeannot, en fait, ce qui l'emmerde aussi sur la Strat, c'est que le potard de volume, il est trop près du chevalet, et quand il joue en étouffé, ben, ça le gêne, et donc il peut pas jouer, quoi. Et voilà, donc ça, c'était sur les bois, et sur les corps. Maintenant, on va parler maintenant du manche, puisqu'on a parlé un petit peu du manche. Donc voilà, ça, c'est les différents types de manches. Parce qu'en fait, le manche fait que ça va influencer sur le jeu du guitariste, et en fait, ce qui va aussi influencer sur le guitariste qui est par rapport au manche, ça va être la morphologie même du guitariste, donc de ses mains. Par exemple, pour Josh, il m'expliquait que lui, la LP et la EG, la Les Paul pardon, et la EG ont un écart de fret qui est moindre, donc pour lui c'est plus facile à jouer. Et comme il joue vite, il a abandonné la Telecaster pour avoir, parce qu'il n'avait pas de technique assez suffisante. Là je fais les profils de manche, mais là je parle de la taille même du manche. Parce qu'en fait, comme le punk, c'est une musique qui joue vite, il faut pouvoir déplacer les mains assez vite pour que la synchronicité entre la main qui gratte les cordes et la main qui plaque l'accord se fasse en même temps. Et comme vous jouez beaucoup d'accords à la seconde, enfin, peut-être pas du million, mais en tout cas pas mal, enfin, ça joue vite, bah, il faut pouvoir se déplacer et être synchronisé. Et plus la distance est longue sur le manche, plus vous devez faire des grandes distances et donc vous perdez du temps. Donc, par exemple, y a une différence. Alors, on va parler vite fait du diapason. Donc, le diapason de guitare, c'est la longueur vibrante de la corde, et c'est la distance entre le chevalet et le sillet de la tête, donc c'est le haut de la tête. Et en fait, c'est la tension à vide qui va déterminer la hauteur du son, et donc sa note. Et donc, voilà, plus. Et donc, loi de l'acoustique oblige, plus le diapason va être grand, plus le manche sera long, pour un nombre de cases. Et par exemple, chez Gibson, le diapason, donc la longueur du manche, fait 62,9 cm en moyenne, alors que chez Fender, il fait 64,8 cm. Donc ça paraît pas beaucoup, 2 cm, mais quand vous jouez 4 accords à la seconde, et ben, les 2 cm, vous les sentez passer, quoi. Je vais revenir maintenant sur le manche, pas sur la longueur, mais sur la concavité. Donc c'est ce que je vous montre là. Donc Jeannot, pour lui, la Les Paul, il explique que le manche de la Les Paul, il est large et fin, pas très concave. C'est mieux que sur la Telecaster, sur laquelle le manche il est moins large et plus épais. Pour la Telecaster, c'est un peu entre les deux. Et il y a trois sortes de concaves principaux, c'est C, U, V. Ouais, il y en a un peu plus, mais il n'y a pas de V, je crois. Il y a le C et le V. Bon, vous voyez un peu les formes, mais on s'en fout des noms. En fait, c'est juste pour vous montrer qu'en fait, ça va influencer en fait sur comment vous tenez le manche. Parce qu'en fait, quand vous tenez un manche de guitare, vous avez le pouce qui est derrière, en général, et vous plaquez, qui fait bien d'avoir la force pour plaquer les doigts de l'accord sur le manche. Et en fait, suivant la forme de vos doigts, et ben vous allez, le manche va être plus ou moins adapté à vos doigts ou l'inverse. Et par exemple, Jeannot qui a des doigts épais et petits, et ben il va jouer sur des manches qui vont être pas très épais, parce que sinon il pourra pas plaquer ses accords. Et puis comme il... Non, c'est con, mais c'est vachement important en fait. Alors que les gens qui auront les doigts qui vont avoir plus fins, ben, ils peuvent jouer pour un mec comme Jimi Hendrix par exemple, surtout sur les strats qu'il jouait de 69-70, et ben il pouvait faire des accords sans plaquer un accord. Il mettait son pouce pour bloquer deux cordes, et deux cordes graves du haut, et il mettait ses doigts en bas et il pouvait jouer comme ça, parce qu'il avait des doigts super grands. Alors que par exemple Jeannot n'aurait jamais, il peut pas faire ça quoi. Les frettes, les frettes c'est ce qu'il y a sur les manches, c'est oui. Les frettes, c'est ça, c'est les petites tiges de métal où vous plaquez l'accord. Et suivant les guitares, en fait, elles sont plus ou moins épaisses. Alors par exemple, il y en a un qui m'expliquait qu'en fait, sur les Gibson, en fait, les frettes sont plus épaisses que sur, là c'est une Fender, que sur Fender. Donc en fait, il faut moins appuyer sur les cordes pour pouvoir jouer. Donc ça fait moins d'effort. Parce que la notion d'effort, j'en suis, ouais, parce que la notion d'effort, en fait, est vachement importante quand vous jouez de la musique en concert. Enfin, moi je sais parce que je suis un musicien du dimanche et comme je joue pas beaucoup en fait, et ben je me nique les mains. Ça veut dire que si je joue pendant une heure, ben, je vais avoir des crampes aux mains parce que j'ai pas les muscles nécessaires pour pouvoir jouer parce que j'ai pas la pratique. Et en plus je vais avoir des ampoules aux doigts parce que j'ai pas de corne qui se développe, parce qu'à force de jouer, vous avez de la corne au bout des doigts, en fait, vous avez, pour protéger la peau, et en fait ça évite, vous faites beaucoup moins d'efforts en fait. Donc c'est vraiment important de pouvoir, c'est un peu comme une Formule 1 où vous allez pouvoir tout customiser en fait. Donc là le manche, les frettes, le poids de la guitare, tout ça, ça va influencer sur votre performance scénique. Parce que là on parle pas de folk en fait. Et j'ai ça sans méchanceté sur la folk, mais le folk c'est un mec tout seul debout, statique, qui joue debout et qui bouge pas. Alors qu'en rock'n'roll le mec il va bouger partout. Bon en folk ça bouge moins. Alors, on va me dire que c'est peut-être un mec ou deux qui bouge, mais le mec il saute pas partout en folk. Donc bah, ça c'est Orville Gibson. C'est Orville Gibson donc qui a fondé la Gibson Mandolin Guitar Manufacturing Company en 1902 à Kalamazoo dans le Michigan. Et il fabriquait donc des mandolines. Ça c'est la première guitare électrique. C'est la ES-150 qui date de 1936. Et en fait, c'était à l'époque, il n'y avait que des guitares creuses. Et en fait, le problème des guitares creuses, c'est qu'avec les micros, en fait, vous avez un effet Larsen qui se fait. C'est-à-dire qu'un effet Larsen, c'est un phénomène d'auto-alimentation entre le son qui est émis et le son qui est reçu, entre le micro et le haut-parleur. Et donc, c'est une boucle qui pète les oreilles. Et en fait, ça, c'était le problème de tous les micros de l'époque sur les guitares à accords creux, parce que la guitare à accords plein n'existait pas. Et en fait, donc dans les années 30, il y a un nommé Lester William Paulsfuss, lui, qui est plus connu sous le nom de Les Paul, qui est guitariste et inventeur de génie, et c'est lui qui s'est attelé à essayer de résoudre les problèmes de Larsen en bricolant des guitares à corps plein en 1937, et qu'il a présenté à Gibson à la fin de la guerre. Mais Gibson n'y croyait absolument pas. Et en même temps, à la fin des années 40, ils avaient besoin de chercher de nouveaux débouchés, donc ils ont commencé à étudier le fait de guitare pleine. Et dans le même temps, sur la côte ouest, il y a une petite entreprise qui s'appelle Fender, commence à se faire un nom, et en fait, c'est par hasard que Leo Fender, donc lui, bon, je suis désolé pour la petite moustache qu'il a, c'est un peu bizarre, mais c'est des photos de 50 en plus. Et en fait, lui et son collègue Doc Kaufman, ils ont inventé la guitare à corps plein par hasard, c'est qu'en fait, ils testaient un micro. Et en fait, au lieu de se faire chier à faire une guitare creuse, parce que ça prenait du temps et de l'argent, et ben ils ont pris une guitare pleine, et puis ils ont commencé à tester le micro. Et en fait, il y a plein de musiciens qui ont commencé à leur emprunter le prototype, parce qu'ils adoraient le son brillant et avec le sustain que ça avait. Et c'est comme ça que la Telecaster est née. Voilà. Et puis après, en 2015, les micros humbucker à double bobinage, P90, ont été inventés chez Gibson dans les années 50 et 55, et ça a remplacé les doubles bobinages en 57. Merci.
Bravo.
Merci en tout cas pour la communication, parce que finalement, tu es un des premiers à aborder le cœur du problème, le rapport aux instruments. Enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire, même au niveau corporel. Hein. Juste avant, je te donne la parole. C'est exprès que tu t'es concentré vraiment sur les deux grandes marques Gibson, parce qu'en fait tu parles de punk riche quand même là, de punk arrivé.
Non,
parce que,
non.
Tu vois, quand on commence en général, enfin tu.
Oui, mais là c'est pas des. Oui.
On attaque sur des copies, sur des. Et puis ça marche bien, hein, les copies.
Non, alors ça, je suis Maurice, d'accord avec toi.
Alors par contre, ce qui est important, c'est que tu as parlé du look. C'est vrai qu'à titre personnel, moi je commençais avec une Maurice, ça marchait bien, mais c'était surtout ce qui m'intéressait. C'était la forme de la Les Paul.
Ah ouais, c'est vrai, ouais. C'est normal, c'est donc, mais moi je pense que si, c'est pas que des trucs. Moi je suis pas d'accord, c'est des trucs de riches pour deux raisons. La première, c'est quand Non, parce qu'en vrai, tu commences à acheter une guitare de merde, et puis après, tu achètes une vraie guitare quand tu commences à vraiment jouer de la musique. Et en plus, en général, les gens achètent des guitares d'occasion, jamais du neuf, quoi.
Et puis tu vois, t'as des guitaristes quand même emblématiques, comme Johnny Ramone qui jouait sur une Moss Rite, qui est une guitare à part, quoi, hein, ouais. Franchement. Mais les fans des Ramones veulent tous une Moss Rite, quoi.
Et ça coûte un bras, en plus.
Juste, c'est Luc qui m'a branché sur le colloque. T'as loupé ta vocation, parce qu'il y a... En 2016, il y a eu un colloque à la Cité de la Musique qui s'appelait « Quand la guitare s'électrise », où tous les points que tu as évoqués, ils ont été, enfin tous, hein, mais certains, retraités, etc. Je vais revenir aussi sur, effectivement, j'ai la même remarque que Luc. Alors, sans dire c'est un problème de riche, mais...
C'est pas donné.
Ouais, t'as très bien souligné le fait qu'il y a un côté punk traditionnel, quand même. On reste attaché à des valeurs traditionnelles. Peut-être ce qui nous a marqué quand on en a rêvé pendant qu'on était gosse, par exemple, quand on était ado. Mais il y a aussi le fait, alors je pense des scènes à Metz notamment, j'ai ces exemples, où les mecs ils jouent avec des grattes pas chères en fait, hein, c'est ce que disait Luc à l'instant.
Mais même Lorraine, je ne sais plus sur quoi il jouait, mais c'est pas une guitare.
Des grattes pas chères parce que ça coûte cher, du punk t'en vis pas. Et après, effectivement, tu l'as souligné, sûrement cette idée de.
Ouais, mais ça, c'est juste.
Cette idée de ce à quoi on est attaché
mais c'est pas que du mimétisme, c'est vraiment un son. Enfin, je sais pas si tu fais de la musique, mais tu prends le même ampli, tu prends une Telecaster, une Stratocaster, une Les Paul, une SG et une gratte à 10 balles, et tu vas voir la différence de son sur le même ampli, quoi.
Je suis d'accord.
C'est impressionnant, quoi.
Alors, est-ce que c'est pas un peu antinomique des fois de dire, je te cite, hein, parce que j'étais super, l'acajou a un son velouté. Mais tu as tendance à dire, mais merde, quand tu joues du punk, est-ce que tu as besoin d'un son velouté, quoi. Tu vois, et j'ai l'impression qu'il y a une sorte de dichotomie, ou enfin une sorte de paradoxe entre dire, l'esprit du punk au départ, c'est jouer fort et vite. Et en même temps, il faut sonner avec un son velouté. Et puis il y a
toutes ces considérations techniques. C'est que tu as un gros son, en fait. C'est que tu as un gros son. Pour avoir un gros son, tu as deux manières d'avoir un gros son. Soit tu as un son de base déjà qui est gros, et comme tu as la Les Paul, c'est un bois qui est dense, ça te fait que t'as plus, quand tu tapes dessus, tu as plus de vibrations. Donc tu as naturellement un plus gros son. Tu prends une Stratocaster, une Gibson, une Les Paul sur le même ampli, tu auras naturellement un plus gros son. Et après, ça va dépendre du micro que tu utilises. Tu as deux micros, trois micros. Comme disait David de Outreau, lui, pour avoir le maximum de vibrations, il prend le micro du côté manche. Donc c'est tout ça qu'il va faire pour avoir un gros son. Parce qu'après, est-ce qu'il peut prendre des pédales? Moi, j'ai un copain là qui joue dans Project Reject. Bon, lui, il joue sur l'ES 150, la 335. Donc, c'est une semi-acoustique. Et avec une semi-acoustique, t'as un énorme son, quoi. En plus, il met des pédales d'effet par-dessus, etc. Et t'as un son de taré, quoi.
Je suis d'accord. Ah, juste pour, après, je laisse la parole, mais est-ce que je me trompe si moi je dis que mon impression à moi, c'est que c'est plus mon habitus, c'est-à-dire mes ressentis, ce que moi j'aimais quand j'étais jeune, et puis ce que j'aime dans les groupes que je vois et que j'admire finalement, qui va faire la différence plutôt que le son proprement dit.
Les deux. Moi, je pense que c'est les deux. Enfin, après, c'est un point de vue, hein, mais moi, je vois tous les gens à qui j'ai posé la question, ils ont tous cité des gens qui avaient la même guitare que des gens. C'est pas que du mimétisme, c'est aussi l'identification, c'est logique, mais c'est, t'as le même phénomène quand tu regardes un film, t'as une perte d'empathie pour le héros et tout ça dans le film. C'est aussi parce que c'est l'objet, enfin, c'est beau aussi. Enfin, moi j'aime bien toutes les guitares, je trouve qu'elles soient, esthétiquement, c'est super beau, mais...
Il y en a qui n'avaient pas la faille, mais...
Et Laurent, il avait une Aria Pro 2.
C'est une Aria Pro 2, oui.
Non, mais après, il n'y a pas des. Bien sûr, mais c'est une générale, c'est dans l'ensemble. Après, moi, j'ai vu des trucs.
Pas cher.
Dans les pays de l'Est, moi, j'ai vu la plupart des mecs qui jouaient du punk dans les pays de l'Est, ils n'avaient pas de Gibson ou de Fender, ils avaient des grades de merde, ils étaient entre guillemets fiers de jouer avec des grades
après,
de merde.
Après les marques ont fait depuis 10-15 ans de gros efforts sur les prix et sur les certains modèles.
Ça se vend plus, les guitares.
La LG que j'ai, moi, elle coûte 400 euros. Hein, c'est pas énormissime, quoi.
Mais ça se vend plus, la musique.
C'est pas 3000 ou.
La musique que les gens écoutent maintenant, c'est du rap, sans méchanceté, du rap ou la musique électronique, donc plus personne achète de guitare. La musique majoritaire, majoritaire. À la radio, etc.
Sur le marché, là, je sais pas, ça c'est un long débat parce que t'as quand même.
Tu mates les. Si Marshall, etc., ils font des casques et des enceintes, c'est pas pour rien.
Non, mais t'as raison, t'as raison, c'est délocalisé.
Moi, je me rappelle avoir lu un article d'une chercheure américaine qui était aussi musicienne et qui disait que pour les femmes, ils utilisaient donc un matériel qui avait été conçu par les hommes, comme d'autres choses hein, dans le domaine de la fabrication, de l'industrie, les médicaments, etc. Tout ça avait conçu au départ pour les hommes. Et donc, elles expliquaient qu'elles essayaient de bidouiller ou de la porter différemment, le fait que ça leur écrasait. Les seins, le ventre, qu'elles n'étaient pas confort avec ça, et que du coup elles tentaient d'autres postures ou je ne sais plus ce qu'elles avaient fait, je ne me rappelle pas du détail, mais elles avaient trouvé une posture pour la transformer. Voilà. Tu parlais tout à l'heure du port très bas et qui entraîne aussi.
Ça pète le dos. Ça pète le dos.
Ça fait pas que péter le dos, tu te chopes un syndrome du canal carpien et tu comprends plus au bout d'un moment qu'il faut remonter la guitare parce que sinon t'arrêtes de jouer.
C'est plus dur de placer tes accords si t'es tout en bas aussi.
Tu vois, au bout d'un moment, c'est ton corps qui te répond. Mais c'est vachement important parce qu'en fait, on parle de scène, on parle d'être en scène et on est vraiment au cœur du problème. Et je te remercie pour ta com parce que voilà, on porte quelque chose, t'as raison, Natacha, ça peut être lourd, ça peut être. Ça casse le dos ou ça aplatit les seins, enfin bon. Donc un instrument, on fait corps avec, et puis en plus, faut y aller, quoi, hein, donc c'est pas anodin, quoi. Donc au-delà du son et du visuel, je crois qu'aussi, il y a quelque chose que t'as peut-être pas évoqué, mais c'est vraiment, enfin Laurent, il en parle, c'est vraiment c'est corporel, on en reparlera, il y a vraiment une espèce d'alliage homme-machine, si tu veux, qui est hyper important à regarder, en fait, je pense, hein, mais... Il n'y a pas tant de travaux que ça là-dessus, et c'est vraiment un champ ouvert d'un point de vue anthropologique, je pense, ou du geste technique et du ressenti aussi. Puis il y a un truc, enfin moi, j'avais fait un entretien avec Nini, c'était sur la batterie, mais c'était le même questionnement, c'est qu'est-ce qu'on ressent physiquement quand on a un instrument. Ce que tu disais, ça vibre, quoi, tu vois, enfin il y a quelque chose d'extrêmement sensuel dans le fait de porter une guitare.
Je pense qu'il y a un sentiment de puissance aussi.
De puissance. Ah ben moi, j'ai l'expression que j'adore, c'est avoir le son au bout des doigts, quoi. Quand t'as le son au bout des doigts, ça veut bien dire ce que ça veut dire.
Et puis le son même, moi je voyais, j'avais été en répète plusieurs fois avec les mecs de Supermissile, là, enfin dans un autre groupe qui font, bref. Et je leur disais, moi personnellement, j'adore le son de la guitare, j'adore le bruit de la guitare électrique, j'adore ce son-là. Après, j'aime bien le son des avions réaction, par exemple. Alors, je sais pas si dans quoi c'est lié, mais je sais pas pourquoi j'aime bien ces sons-là. Mais là, je voyais avec Jex quand on parlait de ce truc, et tu vois, il branche sa gratte sur le Marshall. Putain, puissance, quoi, je veux dire, ça sonne, quoi. C'est, alors, je sais pas, c'est pas dans le fantasme de puissance masculine ou je sais pas quoi, mais juste à. Peut-être, je sais pas, mais en tout cas, il y a.
Je pense que c'est peut-être un peu ça aussi.
Je pense que tu peux pas l'éliminer totalement.
Non, mais je pense que c'est pas vraiment conscient, tu te dis pas, je vais
une
guitare, c'est pas fallible non plus, mais la puissance, c'est un processus.
Dans les deux sens, parce que moi, quand j'écoute Thunders, j'ai la sensation d'une tronçonneuse électrique, quoi, quelque chose d'assez violent. presque d'un désir quoi, de cette violence qui passe par le jeu de la guitare. Alors que je l'écoute chez moi, elle n'est pas à côté et je le ressens quand même très très puissant.
Mais c'est pareil comme tu
ça
dis.
Ça entraîne des émotions très puissantes.
Mais comme tu dis, moi je pense aussi, pour compléter, c'est le fait que écouter de la musique en concert. Rien que ça, quoi. Je veux dire, écouter un mec qui joue en concert, ça n'a rien à voir avec un disque, quoi. C'est,
tu vois, sur le son, on va être obligé de. Tu parles de gros sons, et je pense que par rapport au punk, il faut quand même en discuter. Alors, nous, je me souviens, on jouait avec le Bal des Enragés avec Strychnine, et puis il y avait Chinois, enfin, il y avait un tas de gens, et Chinois me dit, bon, il est aujourd'hui décédé, qui a travaillé avec la Mano, il me dit, quand on écoutait Strychnine dans les années 70, c'était plus crin, crin, crin. Tu vois, c'était vraiment une attaque, il joue sur des Fender, et avec un son qui n'est pas si gros que ça, c'est très tranchant. Alors que le répertoire comme on le joue aujourd'hui, c'est du plus gros son. Et j'avais eu, tu vois, on m'avait envoyé cette remarque, et c'est hyper important en fait entre ce son des années mi-70 et le son tel qu'on le rejoue aujourd'hui, qui est quand même plus tout à fait le même. Et Sven, au contraire, disait, il nous disait à Kika, il n'y a plus que vous qui faites ce son. Enfin, tu vois, donc
Ouais, mais entre temps, t'as le hardcore qui est passé. T'as le hardcore qui est passé par là aussi entre temps. Et le hardcore, c'est du gros son.
Je suis d'accord avec lui. J'ai eu la chance de voir les Pistols en 76, par hasard, je le dis. C'est pas un acte de gloire, je les ai vus par hasard. Ils avaient un son pourri. Pourri. Je veux dire, là, le gros son, c'était même pas la peine d'en parler. C'était inexistant. Voilà, donc ça revient à ce qu'on...
Non, mais je suis d'accord, on peut parler même des cures, de plein de trucs comme ça. Là, c'est par rapport au son d'aujourd'hui.
Tout ça pour dire, mais c'est hyper intéressant, tout ça pour dire que le son, c'est aussi un objet qu'on peut historiciser, et que sur 40 ans de punk, bien évidemment, les sons, ils ont changé, quoi.
Le matériel a évolué aussi.
Bon, mais merci Christophe.
De rien. Merci.